Les grands titres de ce mardi 1er novembre. Le gouvernement australien confirme que des demandeurs d'asile qui sont déjà en Australie pourraient être affectés par les changements à la loi sur les migrants. La course qui stoppe la Nation, la Melbourne Cup, a lieu cet après-midi à 15h au champ de course de Flemington. Et l'opération française Sangaris en République centrafricaine s'est terminée hier après 3 ans de présence. Le gouvernement australien a confirmé que des demandeurs d'asile qui demeurent au pays grâce à des visas intérimaires, qu'on appelle ici les « bridging visas », pourraient être affectés par les changements proposés aux lois sur les migrants. Le gouvernement se prépare à présenter un projet de loi qui bannirait pour toujours les demandeurs d'asile qui tentent de rejoindre le pays par bateau. Si cette loi est passée, ça signifie que les demandeurs d'asile adultes qui sont détenus à Nauru et Manus Island ne pourront jamais venir en Australie, même en tant que touristes ou citoyens d'un autre pays. La ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, a dit à ABC que tous les demandeurs d'asile adultes à Nauru et Manus Island seront affectés.
This applies to those in offshore processing centres, the cohort whose claims for asylum are being processed in a regional offshore processing centre, but those who have already had their claim for asylum processed in Australia under the previous Labor government are not affected.
Le Parti travailliste a dit que le gouvernement s'attend à son support sans même qu'il ait vu les détails du projet de loi. Pour le sénateur Doug Cameron, cette législation prouve que le premier ministre est l'otage des factions de son parti.
It's about the government and Malcolm Turnbull being too weak, and too jellyback to stand up in the right to the right wing of his own party. You've just got to look at what the report in the Herald this morning, where Liberal members are calling for a blanket immigration ban. They're putting forward motions calling migrants criminals and bastards. This is a problem not for Bill Shorten, not for the Labour Party, but for Malcolm Turnbull.
C'était le sénateur Doug Cameron. Le sénateur du parti Family First, Bob Day, a annoncé qu'il quittait finalement le Parlement. Le sénateur a dit que l'investisseur qui était initialement intéressé par son entreprise Home Australia a changé d'idée. Le sénateur d'Australie du Sud avait dit qu'il démissionnerait le mois passé quand sa compagnie a été mise en liquidation, puis avait décidé qu'il resterait au Parlement jusqu'à la fin de l'année pour voter sur d'importantes législations, mais il a changé d'idée encore et il a finalement démissionné. L'oncologiste de Nouvelle-Galles du Sud qui aurait sous-dosé plus de 100 patients en chimiothérapie doit apparaître devant une enquête parlementaire aujourd'hui. Le docteur John Griggle est la seule personne à avoir perdu son emploi après qu'un rapport du gouvernement ait révélé que des patients de Sydney et des environs s'étaient fait donner les mauvaises doses de chimiothérapie. Le PDG de l'hôpital Saint-Vincent et des cliniciens ont admis hier que des patients ont été référés au docteur Griggle jusqu'à novembre l'an dernier, malgré que le problème de dosage ait été porté à l'attention de l'hôpital 5 mois plus tôt. Le docteur Griggle dit avoir discuté de dosage avec son superviseur, le docteur David Galley.
There was never any indication from my boss, Dr. Daly, that I should adopt the guidelines that had just been promulgated.
So what?
And and the basis of that was that there was an agreement that there was no correct dose, and that my treatment had not been in any way demonstrated to be inferior to any other.
Le docteur John Griggle. Une amie de Tony Abbott a demandé à ce qu'on donne le portfolio des affaires aborigènes à l'ex-premier ministre, disant qu'on a besoin de lui au gouvernement. Catherine McGregor, qui est officière dans les forces aériennes, a écrit dans le journal Daily Telegraph que Tony Abbott aimerait revenir au cabinet. Elle a dit que son retour pourrait aider à réparer la relation tendue avec son successeur, Malcolm Turnbull, qui continue de dégringoler dans les sondages. Catherine McGregor affirme que Malcolm Turnbull a besoin de Tony Abbott au gouvernement.
He may be one of the few people at Malcolm Turnbull's disposal, frankly, who can actually quell an emerging insurgency against the Indigenous recognition movement. He's got real credibility with Indigenous Australians. He's got credibility with that wing of the conservative movement that has been flirting with Pauline Hanson. I think he can do great service to the government and the country in diffusing racial debates in Australia in that portfolio.
Catherine McGregor. Si vous êtes en retard et n'avez toujours pas logé votre rapport d'impôt, vous avez une journée de plus aujourd'hui pour le faire. Des problèmes avec le site web MyGov hier ont empêché des personnes de loger leur rapport d'impôt avant la date limite qui devait être hier. Le directeur général Hank Jungen a dit que la panne avait duré une dizaine de minutes. Passons à l'international maintenant. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie a dit que les attaques des rebelles sur Alep pourraient être des crimes de guerre. Stéphane de Mistura a dit que des attaques ont été lancées par les groupes d'opposition contre des banlieues de l'ouest d'Alep où vivent des civils. On rapporte que beaucoup de civils ont été tués, dont des enfants et une centaine de personnes blessées. L'armée syrienne affirme que plus de 80 personnes ont été tuées au cours des trois derniers jours dans des bombardements incluant armes chimiques et tirs de roquettes. Le nombre est plus bas selon l'Observatoire syrien sur les droits humains, mais il confirme que des enfants font partie des victimes. Le Liban a enfin élu un nouveau président, l'ex-général chrétien et proche allié du Hezbollah, Michel Aoun. Son élection met fin à 2 ans et demi de vide institutionnel depuis la fin du mandat de Michel Sleiman en 2014. Les précisions de Daniel Valo.
Adulé par ses partisans et souvent détesté par ses adversaires, Michel Aoun se fait connaître dans les années 80 pour son rôle au sein de l'armée libanaise. Devenu général en pleine guerre civile, puis chef de l'armée, il accède brièvement à la direction du gouvernement à la fin de la décennie. Hostile à la Syrie, il quitte son pays en 1990 et passera les 15 années suivantes en exil à Paris. C'est en 2005, après l'assassinat de Rafik Hariri, qu'il retourne au Liban. Après avoir lutté durant des années contre l'influence syrienne dans son pays, il décide alors contre toute attente de s'allier avec le Hezbollah et donc de se rapprocher de Damas. Cette alliance lui permet aujourd'hui d'obtenir le poste qu'il convoitait depuis des années, mais pour y parvenir, Michel Aoun aura réussi au préalable à s'assurer du soutien de Saad Hariri, l'ancien premier ministre sunnite, proche de l'Arabie Saoudite et hostile à la Syrie. L'élection de Michel Aoun aura donc été le fruit d'une alliance que certains ont pu qualifier de contre-nature, un ultime coup de théâtre qui permet au Liban de se trouver enfin un président après 2 ans et demi de vide institutionnel.
Daniel Valo pour RFI. Aux Pays-Bas, le leader d'extrême droite, Geert Wilders, ne s'est pas présenté en cour pour le début de son procès pour langage haineux et discrimination. Le procès commence 18 mois après qu'il ait scandé vouloir moins de Marocains au pays, disant qu'ils étaient des ordures. Il croit que le procès est motivé par des raisons politiques et contente de brimer sa liberté d'expression. Mais les procureurs disent que ce n'est pas le cas et que la liberté d'expression a ses limites. L'avocat de Geert Wilders a dit que son client ne croyait pas que la cour était l'endroit où contester ses opinions.
One of his main arguments is that the charges which are laid against him should be actually tried to put it that way within the parliament and not before a court of law. That is his point of view.
Geert Wilders fait face à 2 ans de prison et une amende de plus de 8 000 $ s'il est reconnu coupable. L'opération française Sangaris en République centrafricaine s'est terminée hier après 3 ans de présence. Une cérémonie marquait la fin de l'opération, mais beaucoup de questions demeurent. Reportage de Pierre Pinto.
C'est le président de l'Assemblée nationale, Karim Mekassoua, qui ouvre la séance avec un discours sans détour. Sangaris part, soit, mais le moment est mal choisi.
Vous venez en porteur d'une décision grave. Je ne vous apprends rien en disant que cette décision intervient dans un contexte plus que préoccupant pour notre pays. Je sais que les noms de nos villes martyrs de ces derniers mois sont parvenus jusqu'à vous. Ndomété, Kakabandoro, Kwango, Kui, Bokaranga, Bangui, Bambari, Grimari.
Karim Mekassoua ne nie pas les succès de l'opération qui aura permis le retour de la légalité constitutionnelle. Mais l'inquiétude est là, et bien là, relayée à la tribune par les députés Epay et Dologuele. Au micro, Jean-Yves Le Drian, lui, insiste sur le rôle de la France dans l'aide au développement de la Centrafrique et il martèle, Sangaris s'en va parce que les objectifs sont atteints.
Vous avez tous les deux dit, Sangaris s'en va trop tôt. C'est toujours trop tôt. Je rappelle que ce papillon... Sangaris est un papillon dont l'existence est éphémère et que les engagements que nous avions pris en intervenant vigoureusement, professionnellement, vous l'avez souligné, reposaient sur un triptyque. Fin des massacres de masse, processus démocratique, relais des organisations internationales, au premier rang desquelles la MINUSCA.
Le triptyque est achevé.
La France n'abandonne pas la RCA, même militairement, a insisté le ministre français de la Défense. La France garde un dispositif sur place, intégré à la MINUSCA. L'armée française sera moins visible, mais sera présente, active et vigilante, a conclu Jean-Yves Le Drian.
Pierre Pinto pour RFI. En Italie, on estime que de reconstruire les villes et villages touchés par le tremblement de terre du dimanche devrait coûter 11 milliards de dollars. La secousse de magnitude 6,6 est la plus forte depuis des dizaines d'années. Deux mois plus tôt, un autre tremblement de terre a tué des centaines de personnes dans la région. Et un mot de sport pour terminer le journal, vous êtes certainement au courant. Si vous êtes dans le Victoria, vous avez probablement même un jour de congé, c'est jour de Melbourne Cup aujourd'hui. Environ 100 000 personnes sont au champ de course de Flemington pour assister à la course qui arrête le pays. C'est la 156e fois que la course de chevaux a lieu. Elle doit débuter vers 15 heures et le prix pour le gagnant est de plus de 6 millions de dollars. On aura plus de nouvelles de sport pour vous dans quelques instants avec Bertrand, juste après la météo. Aujourd'hui en Australie, à Perth, un maximum de 26, à Adélaïde et Canberra, 18, Melbourne, 17, Hobart, 16, Wollongong et Newcastle, 21, Sydney, 23 degrés, Brisbane, 27, Cairns, 31 et à Darwin, 34 degrés. Les grands titres de ce mardi 1er novembre en rappel. Le gouvernement australien confirme que des demandeurs d'asile qui sont en Australie pourraient être affectés par les changements à la loi sur les migrants. La course qui stoppe la nation, la Melbourne Cup, a lieu cet après-midi à 15h au champ de course de Flemington. Et l'opération française Sangaris en République centrafricaine s'est terminée hier plutôt après 3 ans de présence.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench